Aujourd'hui, la masterclass de Sylvain Tesson avec Delphine Chaume.
Bonjour à tous et merci d'être là pour cette masterclass, un terme que vous aimez bien, Sylvain Tesson.
Bonjour.
La masterclass avec Sylvain Tesson, c'est vraiment plonger dans la fabrication de votre œuvre, comment vous travaillez, comment vous écrivez vos textes de manière différente, certainement en fonction de vos projets, puisque vous êtes auteur de récits, d'essais, de nouvelles, d'aphorismes également, donc c'est une palette assez large. Vous avez reçu le prix Médicis en 2011 pour Dans les forêts de Sibérie. Là, en 2016, est paru Sur les chemins noirs, donc qui retrace votre itinéraire en France, cette fois. Donc voilà, on va parler de tout ça, Sylvain Tesson, sachant que vous avez aussi réalisé, co-réalisé des documentaires. Vous aimeriez être, c'est ce que vous dites dans un de vos textes, un baladin du monde occidental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous définissez le baladin du monde occidental?
Je m'étais amusé à dire ça parce qu'effectivement, on m'avait posé une question sur la manière dont je me définissais. Or, se définir, d'abord, c'est très compliqué. C'est risquer de pécher par vanité. Et puis, c'est... c'est toujours un exercice difficile parce que on aurait tendance à trouver que on est contraint à une forme de réduction, et puis en même temps souvent on recourt à une facilité. Il arrive parfois qu'on considère qu'un écrivain qui décide d'écrire sur une expérience qu'il a vécue ailleurs s'appelle un écrivain voyageur. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ça ici en ce moment à Saint-Malo. Ça me semble, oui, être une forme de commodité, d'arrangement. Alors moi, je m'étais amusé à dire « baladin du monde occidental » parce que d'abord, ça faisait référence à la pièce post-romantique de Synge, c'est cela, qui se passe en Irlande, qui est un pays que j'aime beaucoup, et parce que je trouvais qu'il y avait dans cette expression quelque chose de suffisamment romantique pour définir le sentiment d'appartenance à une nature sauvage que je ressentais en moi. Voilà pourquoi c'était le recours à cette expression.
Alors, Sylvain Tesson, donc vous avez étudié la géographie, la géopolitique. À quel moment, en fait, vous êtes dit que vous alliez écrire? Est-ce que c'était concomitant à l'envie de partir, ou est-ce que c'est intervenu après, une fois que vous étiez parti, que vous aviez déjà exploré certaines parties du monde, que vous êtes dit que vous alliez écrire, que vous aviez envie d'écrire?
Mais c'est-à-dire qu'il y a dans l'intitulé même de votre question quelque chose qui m'est profondément étranger. Pardon, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que vous partez du principe que une chose est contenue dans l'autre et que tout appartient à un long processus de causalité et que chaque chose est la matrice de celle qui lui succède et que tout ce qui advient n'advient que parce qu'il était contenu dans son préalable. Or moi, je ne crois pas du tout à ce mécanisme ni de la vie ni de l'événement en général. Quand je suis parti faire un tour du monde à bicyclette, j'avais 20 ans, je répondais à une pulsion quasi animale. Le chien ne se demande pas pourquoi il mange la pâtée. Eh bien, le voyageur ne se demande pas pourquoi il voyage. Et d'ailleurs, personne ne se demande pourquoi il fait les choses. Les choses sont faites parce que tout d'un coup, on est pris du besoin de les faire. Et il en allait de même pour moi du voyage et de l'écriture. Je me suis mis à écrire parce que tout d'un coup, il me plaisait le soir de passer les longues heures qui précédait le sac de couchage, il me plaisait d'écrire ce que j'avais vécu. Et puis tout ça a fini par me décider d'écrire un livre avec mon camarade Poussin, avec lequel j'ai écrit ce premier livre, qui était un récit de voyage de notre tour du monde de bicyclette. Puis le livre en a entraîné un autre, et puis c'est ainsi que j'ai fini par vivre de ma plume. Mais encore une fois, je conclue en vous disant qu'on a beaucoup tendance à penser que ce qu'on est devenu, ce que l'on était, parce qu'on était inspiré par une sorte de vocation que l'on a embrassée dès le plus tendre âge et que toute notre vie a été une sorte de convocation des forces pour réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé quand on était déjà nourrisson. Eh bien, c'est pas du tout mon cas. Vous comprenez, je me méfie beaucoup. L'autre fois, j'écoutais les archives de l'Institut National des Archives. On entendait Henri de Montfred répondant à un interview dans les années 60 et expliquant que tout petit déjà, il rêvait d'être Henri de Montfred et d'aller... Serait-ce tout juste si vous expliquiez pas qu'entre deux biberons, il pensait déjà à la mer Rouge. Et je ne crois pas à ça. Moi, je crois plutôt que les vies, c'est d'ailleurs leur charme, c'est d'ailleurs leur mystère, leur chatoiement et leur bizarrerie. Je crois davantage que les vies sont la plupart du temps des occasions saisies et des cheminements un peu tortueux au gré des événements qui passent. Et elles sont très rarement un long collier de causalité logique.
Sylvain Tesson, vous venez nous expliquer que vous aimiez donc noter le soir ce que vous aviez vécu. Est-ce que vous aviez envie de photographier également ou de dessiner donc c'est l'écriture qui est venue en premier finalement.
Vous avez raison, j'avais l'envie de raconter. Il me plaisait que l'idée devient un voyage et que le voyage devienne des phrases. J'aime beaucoup l'idée de formuler l'action que j'ai vécue, davantage que celle de formuler la pensée d'ailleurs. Je suis plutôt un auteur de... Je préfère restituer ce qui advient que restituer ce à quoi je pense, parce que d'ailleurs ce que je vis est plus passionnant que ce à quoi je pense. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis plutôt un écrivain de ma vie extérieure qu'un écrivain de ma vie intérieure. Alors ensuite, pour répondre à votre question, j'ai préféré l'usage de la plume que l'usage de l'appareil photo, parce que d'abord, je voue une répulsion assez pathologique d'ailleurs à la technique. Je suis devenu auteur parce que mon stylo marche, alors que mon appareil photo n'a jamais marché. Je casse les choses que je prends dans les mains. Et puis, je suis tellement pessimiste que lorsque je regarde le monde à travers un appareil photo, avant même de prendre la photo, je me suis dit, ça y est, je l'ai déjà raté, c'était mieux juste avant. Donc, je ne prends pas de photo pour cette raison-là et je préfère écrire, ce qui me permet de remoudre a posteriori ce que je viens de vivre.
En revanche, vous avez travaillé avec des photographes, notamment un qui vous a accompagné sur plusieurs de vos voyages, et un peintre également. Donc il y a des albums photographiques que vous avez fait avec ce photographe, Thomas Guasque. Lors de ces collaborations, en fait, comment vous travaillez avec Thomas Guasque ? Est-ce qu'il vous parlait des photographies qu'il allait faire ? Vous en discutiez ensemble après ? Vous avez conçu ces ouvrages-là a posteriori ?
Avec Thomas Guasque, je suis parti à plusieurs reprises en Sibérie, en Mongolie, en Afghanistan, pour faire deux choses différentes. La première, c'était des reportages, et la deuxième, c'était parfois de revivre des épisodes que j'avais vécus pour essayer d'en tirer une image. Ce qui était un exercice assez périlleux et qui contient sa contradiction en lui-même, puisqu'il s'agit d'essayer de rendre spontané quelque chose qui ne l'est plus, puisque c'est une photo rejouée. C'est ainsi qu'il m'est arrivé de refaire avec lui des très longues traversées continentales que j'avais effectuées tout seul, et nous les répétions pour les besoins de l'illustration par la photographie d'un livre. Alors, me plaisaient beaucoup moins les moments où il s'agissait de rejouer la marche à pied ou l'escalade de la montagne que les moments où Thomas Guasque se consacrait purement au saisissement d'un paysage, par exemple, que je pouvais écrire dans mon livre. Là, je trouvais que c'était un exercice très bon. Celui de la recomposition a posteriori de ce qui avait vécu et était vécu me paraissait très légèrement artificiel. Et puis après, nous sommes partis en Afghanistan pour faire des reportages sur l'engagement français de l'armée française en Afghanistan et de la coalition internationale depuis les années 2001. Nous sommes allés à plusieurs reprises dans le pays, à beaucoup de reprises, chacun de notre côté, puis souvent ensemble. Et cela m'a beaucoup intéressé, mais là, il s'agissait de parler des autres, de parler d'une action d'un reportage qui était mené par les forces en présence dans le pays. Et alors là, c'est un exercice, puisque c'est le sujet de notre conversation, c'est un exercice d'écriture qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de la légende. Légender la photo, c'est un peu... Il faut avoir l'image de l'écrivain qui se dit, Je sais bien que le monde est en train d'être enseveli par la photo, par toute cette espèce de raz-de-marée de l'image et de cette certitude que l'image vaut tous les mots et qu'il vaut mieux regarder un film sur la guerre de Troie plutôt que de relire Homère. Alors voilà ce qu'on entend, voilà cet extraordinaire bluff qui a réussi d'ailleurs, cette victoire remportée par les nouvelles technologies et par l'image, par ce nouveau veau d'or qui s'appelle l'image, eh bien vous avez le pauvre petit écrivain qui arrive et qui dit « Mais quand même, il me reste une toute petite chose à dire, laissez-moi poser une légende sur cette photographie. » Alors moi, ça m'amuse beaucoup de faire ça, c'est un exercice qui est très plaisant, parce que il faut trouver quelque chose qui ne soit pas la paraphrase de la photo. Évidemment, si vous dites « coucher de soleil sur le lac Baïkal », alors que la photo montre un coucher de soleil sur le lac Baïkal, on risque de verser dans une légère redondance. Alors, il faut trouver autre chose. Il ne faut pas non plus trouver un angle d'attaque complètement antipodique, sinon c'est un exercice surréaliste, sinon c'est « ceci n'est pas une pomme », sinon on fait que... Puis Magritte l'a déjà fait. Alors, il faut trouver quelque chose qui soit entre les deux, et ça peut être un exercice de révélation assez amusante, qui du coup... s'apparente d'une certaine manière à la photographie, puisque la photographie, c'est une image qui est saisie puis révélée par un bain chimique, et la légende révèle la révélation. C'est ça que j'essaye modestement de faire avec cet exercice qui est fort amusant.
Vous avez également travaillé avec un peintre, Bertrand de Miolis. Alors là, c'est l'illustration, on n'est plus... c'est du dessin, l'illustration. On n'est plus dans l'instantané de la photographie. Est-ce que ça change le fait que ce soit du dessin, précisément ?
Oui, ce que je veux dire est très banal et caresse toutes nos pensées. C'est que la peinture ressemble évidemment davantage à l'exercice de littérature. La peinture est une littérature sans les mots, puisqu'il y a une restitution, le temps a fait son œuvre, il y a une distance qui est prise entre l'immédiateté, enfin entre le réel et sa restitution, et puis il y a un passage par la sensibilité qui est un filtre. Le photographe saisit, prend, ça s'appelle d'ailleurs un instantané, alors que le peintre donne quelque chose qui lui appartient. On n'est plus dans la vérité, on n'est plus dans l'immédiateté, on n'est plus dans la restitution. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les peintures hyperréalistes provoquent toujours un malaise, parce qu'elles contiennent en elles-mêmes leurs propres contradictions.
Sylvain Tesson, on vient de parler donc de photographie, de peinture. Quelles sont les autres formes d'art qui nourrissent votre écriture ? Alors quand vous êtes en voyage ou en exploration, vous n'avez pas grand-chose avec vous, excepté vos carnets. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, peut vous nourrir ? Est-ce que ce sont des images, des réminiscences ? Et quand vous revenez et que vous êtes dans des périodes de sédentarité, est-ce que là, ce sont d'autres... Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que ça vous nourrit, par exemple ?
Non, si tant est qu'il s'agisse d'une forme artistique qui m'inspirerait, c'est plutôt le silence. Je pense que le silence est une forme d'œuvre d'art, oui. Je n'écris pas du tout en écoutant de la musique. Pour essayer d'apporter une réponse précise à votre question, le seul matériau d'inspiration pour mon écriture une fois revenu d'un voyage, c'est le journal intime, c'est-à-dire les notes télégraphiques que j'ai prises au cours des événements que j'ai vécus.
Vous prenez des notes tout au long de votre voyage, donc des notes dans des carnets, des notes éparses, des images, où c'est vraiment très écrit à ce moment-là?
En fait, je tiens mon carnet intime depuis que j'ai une vingtaine d'années. Et c'est probablement l'un des genres littéraires, d'ailleurs, le journal, qui m'intéresse le plus. Enfin, en tout cas, c'est celui que j'aime le mieux lire. Enfin, je pense qu'on est beaucoup, on est nombreux à partager ce goût. Il y en a qui partagent le goût uniquement pour les romans, d'autres pour les essais, certains pour les lettres, le genre épistolaire. Moi, c'est le journal. Parce que j'ai l'impression, d'ailleurs, que le journal est un genre épistolaire. C'est la lettre qu'on s'adresse à soi-même. Enfin, le journal est un exercice très étrange de volonté de confirmer que quelque chose a été vécu par son récit. C'est très étonnant. Les gens qui tiennent avec obsession, avec une forme de pathologie, un journal intime depuis des très nombreuses années, paraissent parfois des êtres qui se donnent l'impression que rien n'a été véritablement vécu si ce n'est pas écrit. Que l'écriture est une confirmation. Plus qu'une prolongation, mais une sorte de bénédiction, de confirmation, d'incarnation de ce qui a été vécu. Et que si ça n'a pas été reporté sur le journal, il y a une forme de disparition, d'évaporation. Alors moi, je m'intéresse beaucoup au journal pour ces raisons-là. D'ailleurs, on revient à votre histoire de masterclass. Le journal, parfois, est un masterclass ou une masterclass. Le journal est la masterclass d'un certain nombre d'écrivains, leur propre masterclass solitaire. C'est le journal de Jules Renard, qui n'est pas du tout un journal intime. D'abord, il savait que ça serait publié. Et deuxièmement, quand vous ouvrez le journal de Jules Renard, vous voyez qu'il ne s'agit que d'acrobaties de langage, de débuts de nouvelles, d'aphorismes qu'il jette ici et là. C'est donc un laboratoire. Vous poussez la porte du laboratoire et vous regardez ce qu'il y a sur la paillasse d'un écrivain. Ça, c'est le journal de Jules Renard. Il peut y avoir le journal de l'action pure, ce que j'appelais tout à l'heure le journal de ma vie extérieure. Ça, ce sont les carnets de Maurice Barrès que plus personne ne lit. Qu'est-ce qu'on pourrait lire d'un peu plus de journal extérieur ? Michel Tournier. Quand Michel Tournier a publié dans sa grande vieillesse, après son temps de romancier, Michel Tournier a publié un court journal courant sur 2 ou 3 années quand il était dans son presbytère du sud de Paris. Et il a trouvé d'ailleurs un titre merveilleux, le journal Extime. Le journal de ma vie extérieure, comme disait Barrès. Lui, c'était le journal Extime, et non pas le journal intime. Alors, qu'est-ce que le journal intime ? Le journal du grand tourment, le journal des pensées, c'est le journal de Paul Valéry, ou le journal de Julien Green. Paul Valéry qui a même fait un journal de son journal, puisque dans les années 40, il a sorti « Mauvaises pensées », qui étaient les pensées extraites de ces milliers de pages de journaux courant sur des milliers d'années, et qu'il avait rassemblées dans des mauvaises pensées. C'était le journal intime du journal intime. Donc là, on était véritablement dans la scrutation de l'intériorité d'un écrivain, de ses pensées. Et puis, vous avez le journal purement factuel, mais qui n'est pas tourné sur le monde, comme le journal de Junger. Par exemple, le journal de Junger est un journal extime du jardin. Et Junger, à la fin de sa vie, en 40 ans, entre 60 et 100 ans, vit dans son jardin, vit de voyage et essaye de trouver dans l'observation des choses, des plantes, des animaux, des insectes et des gens qu'il croise et de ses lectures, il essaie de trouver de grandes réponses à ses interrogations cosmiques. Et alors à ce moment-là, on a un journal du jardin qui est un journal extime. Mais en revanche, Barbé d'Aurevilly dans les Mémoranda, c'est un journal tourné sur soi-même, mais pas tourné sur ses pensées ni sur son jardin, mais tourné uniquement sur ses petits faits, un journal factuel. Aujourd'hui, ai pris un café à 7h, ai écrit jusqu'à 9h, ai rencontré Tartampion jusqu'à midi, et suis allé me promener au Palais Royal jusqu'à 4h. C'est quasiment le greffe, comme on dit dans les tribunaux, de ce qui a été vécu dans la journée. Alors moi, je tiens ce genre de journaux, ils sont un peu un mélange de tous ces genres-là. C'est plutôt un journal factuel, avec de temps en temps, quand elle daigne me traverser péniblement ce qui me reste de boîte crânienne, une méditation, enfin c'est un bien grand mot, pour ce qu'il en ressort. Et je tiens ce journal-là. Alors encore une fois, c'est davantage un journal de l'action, de ce qui est vécu, des rencontres que je fais. Et c'est plutôt ma source d'inspiration que de tourner le bouton de la musique pour écouter un bruit de fond.
On imagine, c'est ça, que vous écrivez dans des carnets, que donc vous avez toujours des carnets avec vous. Vous dites des bloc-notes. Vous aimez bien le terme de bloc-notes et vous comparez le bloc-notes à un herbier, Sylvain Tesson. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors d'abord la question du petit carnet, après la réponse sur l'herbier. Le petit carnet, oui, matériellement... c'est technique, un masterclass. Hein.
Absolument.
Parlons technique. Le petit carnet a évidemment l'avantage de se transporter partout, mais le petit carnet contient physiquement une forme de vulnérabilité que le genre littéraire du journal contient dans son principe. L'un contient sa vulnérabilité dans son existence physique, le carnet, et l'autre le contient dans son principe, c'est-à-dire le dévoilement de soi-même. Et quand on écrit son journal extime, enfin son journal de sa vie extérieure, on dit parfois qu'on était à un endroit où on n'aurait pas dû être, ou qu'on rencontrait quelqu'un avec qui on n'aurait pas dû être. Donc c'est une vulnérabilité. Il ne faut pas que tout œil se pose sur le journal que vous tenez. C'est assez idiot de tenir son journal extime, puisque la vie en général passe à mentir aux uns et aux autres, et à soi-même beaucoup. Donc quand on tient un journal extime, on fait cet extraordinaire travail de dévoilement absolu de tout ce qui a été. Et finalement, personne ne connaît les autres, personne ne connaît ses semblables, il n'y a que son journal intime qui vous connaît. Et le comble de la pathologie mentale serait d'ailleurs de mentir à son journal intime. Le type qui commence à mentir, à raconter ce qu'il ne sait pas, quelque chose d'autre à un journal qu'il appelle intime, alors là, il n'est même plus à interner. Là, il faut... c'est au-delà de la pathologie, je pense. Alors voilà, donc il y a cette vulnérabilité du contenu du journal, à laquelle d'ailleurs les marchands de gadgets ont répondu avec un grand génie. Moi, je crois que l'une des grandes... après la roue et le moteur à explosion, il y a eu l'invention du petit cadenas sur les journaux intimes des petites filles, qui est c'est une invention assez géniale. Parce que quand la petite fille écrit « Cher journal, aujourd'hui j'ai rencontré un garçon », etc., elle met son petit cadenas, les petites adolescentes, tout ça, on connaît ces choses-là. Moi, j'avais vu ma petite soeur avec ça. Et d'ailleurs, le but du petit frère est de casser le cadenas. Enfin, on pourrait écrire un roman qui s'appellerait « La pince Monseigneur du petit cadenas des journaux intimes », voilà, qui serait une entreprise de dévoilement. Alors tout ça est assez banal, ce que je dis, parce que ça nous ramène à la question de la nudité de la littérature. Qu'est-ce qu'un auteur dévoile de lui-même quand il écrit un livre et qu'il prétend avoir tout mis dans son roman et qu'il prétend avoir déballé ses tripes dans la marchandise ? Souvent, c'est une imposture, ce qu'on entend là. Dans le journal intime, je pense qu'il y a une vérité dans cette exposition de soi-même. Voilà pour le journal, le carnet. Maintenant, un mot sur l'herbier, puisque vous utilisiez cette expression que j'ai utilisée, oui, en disant qu'un bloc-notes était un herbier. Parce que l'herbier, comme on le sait, ou comme peut-être on ne le sait plus, parce que je ne sais pas si les enfants font encore des herbiers, ou alors on ne peut pas faire sécher des herbes en les mettant entre des écrans. Il faudrait essayer, peut-être. Peut-être que ça abîmerait les écrans, d'ailleurs, ce qui rendrait service à la progression de la connaissance. Alors, autrefois, on mettait les plantes et les fleurs dans des papiers, et puis le papier absorbait l'humidité, c'était formidable. Et le bloc-notes, c'est pareil, parce que d'abord, il y a le geste de la cueillette. On cueille un événement, on cueille une histoire qui vous est arrivée, on cueille un visage que l'on a aimé, on cueille quelque chose qui vous est arrivé, et puis on le serre entre ces pages, on fait dégorger l'humidité. Voilà, c'était une analogie assez banale et assez évidente entre l'herbier et le bloc-notes. Et le dernier terme de cette analogie concerne la multiplicité, c'est-à-dire que par définition, le bloc-notes est quelque chose de diffracté, comme l'herbier. Dans un herbier, il peut y avoir un cactus, il peut y avoir une anémone, il peut y avoir une encolie. Eh bien, dans un herbier, il y a tout et son contraire, des choses qui ne correspondent pas les unes aux autres. C'est le caractère tout à fait hétérogène et polymorphe et polyphonique du bloc-notes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a des lecteurs qui sont très hostiles à cette manière d'écrire et qui sont très hostiles à ce genre-là parce qu'ils trouvent justement que l'écrivain batifole comme un papillon. Justement, on revient à cet usage de la botanique qui va butiner d'un pistil à l'autre au lieu de s'en tenir à un labour narratif rectiligne. Alors moi, comme je suis un être agité comportementalement et hélas intérieurement également, diffracté, le bloc-notes évidemment me correspond mieux puisque je saisis de ce que je peux et puis je finis de le déranger dans un bloc-notes.
Sylvain Tesson, ce caractère diffracté, fragmentaire dont vous venez de parler, c'est ça qui vous pousse à tant aimer les aphorismes, à en écrire vous-même ?
Oui, bien sûr, j'aime la forme courte parce que ça correspond aux vies que j'appelais tout à l'instant même les vies agitées. Ce manque de rigueur, de discipline, de force de travail, peut-être qui me fait admirer beaucoup les romanciers, notamment, qui réussissent tout à coup à mener un fil narratif si long, à tisser comme ça pendant 20 ans leur tapisserie. Je trouve ça tout à fait remarquable, je m'en sens bien incapable. Et je pallie ce déficit par le recours à la forme très courte de l'aphorisme. Et puis je l'aime aussi pour une autre raison, c'est que j'aime bien la précipitation, j'aime bien la rapidité. Je ne cours pas absolument après le système de pensée. Je n'aime pas beaucoup, moi, les grilles de pensée, les grilles de lecture, les grandes architectures d'idées, les idées générales, toutes ces choses-là. Je préfère la capture des instantanés. D'ailleurs, on pourrait dire que l'aphorisme est une forme de photographie des choses par les mots. Et ça me plaît beaucoup quand un concept est réduit en quelques mots, dans une phrase, à un aphorisme. Par exemple, je vais vous donner un aphorisme que je trouve l'un des plus illustratifs de cette capacité de la forme très courte à dire des grandes choses très longues. qui nécessiterait de longues séminaires philosophiques à la Sorbonne. Au lieu de parler de l'absurdité de la vie, au lieu d'écrire un long traité de la vanité de toute chose dans ce monde, Alexandre Vialat, qui pourtant était un homme convaincu de tout cela, qui aurait pu être un philosophe cynique et sceptique, Alexandre Vialat écrit « L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau ». C'est tout à fait beau, c'est charmant. Et puis alors, pour terminer avec cette capacité, cette force intérieure de l'aphorisme à exprimer les choses, il y a ce mot d'Ignace de Loyola, inventeur du jésuitisme, enfin c'est même le fondateur de la compagnie des jésuites. Et alors les jésuites, on connaît beaucoup les jésuites, on a beaucoup parlé d'ailleurs des méthodes jésuitiques consistant à réussir à n'être ni de quelque part ni de l'autre et à tout rassembler dans une espèce de magma tout à fait formidable et dialectique. Il me semble, parce que je n'étais pas là, mais il y a eu des événements récents politiques qui nous ont ramenés à cette pensée jésuitique qui est une capacité assez cérébralement très abouti, très civilisé, de l'art de mener les choses sans y paraître vers des buts qu'on n'a pas nommés. C'est ce génie jésuitique. Eh bien, Ignace de Loyola, qui a inventé probablement cette manière de faire et de penser, disait « Je fais rentrer chacun par sa propre porte, mais je le reconduis par la mienne ». C'est merveilleux. Voilà, c'est une forme d'aphorisme. Eh bien, je trouve qu'on comprend très bien ce qu'est le jésuitisme en écoutant cette phrase d'Ignace de Loyola, aussi bien qu'en lisant un long traité de la technique jésuite d'embobinement des troupes. De la même manière, et puis j'arrêterai là parce que je pourrais, sur les aphorismes, j'aime tellement ça que j'en ai comme ça toute une collection qui correspondent d'ailleurs à des concepts, à des vues. Le pessimisme, l'écroulement terrifié devant parfois qui étreint le voyageur lorsqu'il revient de voyage et qu'il a été davantage assommé par la mélancolie que lui a procuré le spectacle du monde plutôt que par l'enthousiasme devant les scènes de la vie courante qu'il a pu voir. C'est arrivé à Aldous Huxley quand il revenait de son tour du monde en voilier. Et on lui demandait « Alors comment était votre voyage ?» Et il a répondu cette phrase qui me semble terrifiante. Et encore une fois, je reviens toujours à cette idée de la précipitation au sens chimique dans une éprouvette par le pouvoir de l'aphorisme. Il répond « La Terre doit être l'enfer d'une autre planète ». C'est un mot qui est glaçant. Et dont on se souviendra et qui distillera longtemps sa pensée contenue par cette puissance de l'aphorisme.
Sylvain Tesson, si on revient sur ces carnets, la manière dont vous travaillez, dont vous écrivez, c'est une fois que vous êtes rentré que vous réécrivez pour écrire vos récits. Comment vous procédez ?
En fait, ça dépend du genre qui m'intéresse. Quand je décide d'écrire une nouvelle, j'ai déjà conçu l'idée. Et je vais vers quelque part. Je vais vers ma chute. D'ailleurs, c'est le principe de la nouvelle. Ce n'est pas forcément le principe de la vie d'aller vers sa chute, mais c'est le principe de la nouvelle. Dans une nouvelle, en général, on conduit l'action quelque part. Je n'ai jamais écrit de roman, donc je ne sais pas comment on écrit un roman, mais j'ai écrit quelques nouvelles, donc je savais que j'allais vers cette chute. Ce qui facilite évidemment les choses. On part de quelque part, on va ailleurs. Paul Morand disait qu'une nouvelle lui rappelait les sauts en parachute. Il y a quelque chose de sportif dans la nouvelle. Voilà, on part, on ouvre son parachute, on se pose.
Mais alors les nouvelles, vous les écrivez d'une traite ?
Oui, je les écris d'une traite, mais je les ai conçues avant. J'ai eu l'idée avant et je sais exactement que ce personnage-là, que Tartempion et Tartemol se rencontreront à tel moment et iront vers tel lieu. Je suis toujours ébloui par ces romanciers qui écrivent qu'ils se font dépasser par leur personnage. Et qu'il crée un personnage et qu'on entend cette phrase tellement extraordinaire. Mon personnage m'a échappé. C'est tout à fait extraordinaire. D'abord, comme si l'écrivain était un geôlier, comme si l'entreprise d'écriture, comme si le masterclass était une prison, et comme si la destinée des personnages était d'échapper à leur auteur. Enfin, moi, je ne comprends pas très bien ça. Moi, il m'est déjà arrivé de créer des personnages, mais ils ne m'échappaient pas du tout. Ils se saoulaient, ils restaient lamentablement assis. J'avais beau l'espérer qu'ils s'évadent, ils ne s'évadaient pas. Alors voilà, je conduis ma nouvelle. Et pour ce qui est, si jamais mon genre n'est pas la nouvelle et que je me mets à écrire, je ne sais pas, moi, mettons un récit, À ce moment-là, j'ai, encore une fois, je me répète, l'usage de mes petits carnets, qui sont mon matériau de départ, et que je n'ai qu'à creuser pour alimenter. C'est comme aller à la mine. J'ai mon petit filon de matériaux, et puis je le creuse pour alimenter le travail de l'écriture du récit. Et comme je n'ai jamais rien écrit d'autre que des choses qui étaient déjà arrivées, pour la plupart de mes œuvres sont des récits de voyage, je ne fais que restituer ce qui est advenu. Je ne suis pas du tout, je ne me sens pas un écrivain de l'imagination. Je ne sais écrire que ce qui m'est arrivé. Je ne sais que raconter ce qui est déjà advenu.
Sylvain Tesson, alors justement, comment vous vient l'idée de départ? C'est concomitant ou très très imbriqué avec l'idée de voyage, mais pourquoi vous dites « je vais partir là, je vais aller là » Est-ce que c'est une évocation, un mot, une image qui vous propulse? Et si on prend un de vos derniers textes publiés donc sur les chemins noirs, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de partir sur les chemins noirs?
Je crois qu'il y a deux choses. L'idée d'un voyage naît pendant un précédent voyage par un phénomène de souhait de se trouver ailleurs. Vous savez, c'est cette espèce de vieille antienne du voyageur tel que Bruce Chatwin l'a magnifiquement formulé dans son livre « Qu'est-ce que je fais là ?» C'est, me semble-t-il, le meilleur titre de récit de voyage. « Qu'est-ce que je fais là ?» est une « What am I doing here ?» disait Bruce Chatwin, c'est le seul mot d'anglais que je sache, est une superbe interrogation. Et souvent, l'idée d'un voyage vient du fait qu'on se le demande, comme vraiment une obsession. On se dit « qu'est-ce que je fais là ? Jamais plus ça ». Ça, c'est une phrase que se disent souvent notamment les alpinistes. Moi, j'ai beaucoup pratiqué cette merveilleuse activité qui s'appelle l'alpinisme. Et je me souviens de m'être dit à chaque fois que je partais grimper une paroi, mais absolument la dernière fois, et j'y retournais de toute façon. Alors, entre ces deux phrases, qu'est-ce que je fais là, et c'est la dernière fois, on a vraiment borné le spectre des expressions et des sentiments du voyageur. Donc, le voyage, souvent, est vécu, enfin, l'idée du voyage est vécue comme l'ensemble des conditions et des caractéristiques qu'on pourrait s'inventer et s'imaginer pour un futur voyage et qui seraient au rebours, aux antipodes inverses du voyage qu'on a vécu. Enfin, en des termes plus simples, quand on est dans le désert, on a envie de voyager dans les glens écossais. Quand on est dans les steppes d'Asie centrale, on a envie de voyager en pleine ville à Rio de Janeiro. Et quand on est en ville, on a envie du désert. Et en fait, c'est la très, très, très vieille idée tellement ordinaire de l'insatisfaction humaine qui fait qu'en fait, on passe sa vie à tourner autour du monde pour chercher un lieu qui ne correspond en aucun point à celui qu'on vient de quitter. Je pense que ça, c'est un moteur du voyageur intranquille, en tout cas, le voyageur à la Pechoa, un voyageur qui fait du monde le propre livre de son intranquillité. Puis il y a une deuxième occasion de faire naître les voyages qui est peut-être un peu plus positive, un peu plus construite, et qui est subitement l'idée que l'on a, enfin en tout cas pour moi, j'essaye parfois, souvent même, de convertir un concept qui m'est cher, un sentiment, une catégorie même parfois de philosophique, et d'essayer de l'incarner en un voyage. Je m'explique. Par exemple, je me suis beaucoup intéressé à la liberté. C'est d'ailleurs probablement la vertu que moi je mettrais au pinacle de toutes les autres. La liberté m'intéresse beaucoup, quelles que soient ses formes. Donc je me suis intéressé à l'évasion, qui est la tentative de conquérir la liberté quand on en a été privé. C'est l'incarnation de la liberté. Et je me suis donc intéressé au voyage d'évasion. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis venu à l'histoire des évadés du goulag en Sibérie entre les années 40 et les années 60. Il y a eu une grande vague de gens qui sont partis, qui ont essayé de fuir l'Union soviétique par les steppes de l'Asie centrale vers l'Inde. Des histoires ont été racontées, certaines sont fausses, certaines sont vraies, et je me suis lancé dans un voyage à la poursuite de cette thématique-là. Une idée devient un voyage, et puis le voyage, tout à coup, vous l'incarnez, et puis finalement, vous en faites un livre. Voilà un exemple de cette conversion de l'abstraction en quelque chose de réel.
Pour Sur les chemins noirs, qui est plus mystérieux, là, comme appel.
Oui et non, parce que finalement, les chemins noirs, c'était, en deux mots, j'ai accompli une traversée de la France, du Mercantour au Cotentin à pied, par des petits chemins de traverse. C'était une balade en France qui a duré un peu plus de 2 mois. Et c'était une promenade qui était nécessitée par un état physique. Donc finalement, d'une certaine manière, ce voyage-là était le plus logique. Il était déterminé par un état physique, puisque je venais d'avoir un gros ennui de santé qui faisait qu'il fallait que je me relève, que je retrouve des forces que j'avais perdues. Et comme je savais que la marche était susceptible de me les redonner, de me regonfler de cette vitalité que j'avais perdue, je me suis lancé dans une marche à travers la France, par ces petits chemins. Donc tout ça était finalement beaucoup moins abstrait que tout ce que je peux venir de vous livrer. Vous voyez, j'avais pas eu tout d'un coup l'envie d'essayer de convertir une idée philosophique en cheminement, et non plus que j'avais l'envie de vivre quelque chose qui était aux antipodes de quelque chose que j'avais vécu avant. Non, là c'était véritablement un voyage déterminé par une situation physique. Je pouvais plus de toute façon aller courir les montagnes à Oulan-Bator, ou les steppes à Oulan-Bator, ou les montagnes à Katmandou, donc à ce moment-là il fallait que j'aille un peu voir du côté de l'Indre-et-Loire.
Est-ce que, Sylvain Tesson, les lieux, ainsi que le mode de déplacement, influent sur votre regard et, par extension, sur votre écriture? Par exemple, du fait de voyager à cheval, vous dites que c'est vraiment une nouvelle vision du monde que ça apporte, de voyager à cheval. Est-ce que les lieux, comme ça, font naître une autre vision et donc une autre écriture?
Je ne sais pas. Pour l'écriture, je suis incapable de vous répondre. Pour la vision, oui, bien sûr. Moi, je suis un être profondément géographique. Je veux dire par là que je suis passionné par la géographie, davantage que par l'histoire. Je préfère le décor à la mise en scène, au théâtre, par exemple. Je m'intéresse davantage au substrat, comme disent les géographes, sur lesquels nous vivons les choses, qu'aux choses elles-mêmes. Et je crois, deuxièmement, c'est en cela être un être géographique. Je crois que nous sommes, comme disait Vidal de Lablache dans l'introduction de ses expositions, de ses tableaux de la France, je crois que nous sommes davantage des disciples du sol que des régents de l'histoire. C'est une phrase magnifique de Vidal de Lablache. L'homme croit toujours qu'il est un régent de l'histoire alors qu'il est d'abord le disciple du sol. Être le disciple du sol veut dire que nous sommes influencés, bien sûr, par la lumière que nous recevons, par l'eau dans laquelle nous nous baignons, par l'endroit d'où nous venons, pour des raisons culturelles évidemment, mais pour des raisons physiques également. Alors je ne suis pas en train d'essayer de faire une espèce de bricolage de la théorie des climats telle qu'elle courait au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas évidemment un déterminisme biologique qui veut dire que selon que vous apparteniez à un village granitique ou un village calcaire ou un village d'argile, vous avez telle ou telle complexion intérieure. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout de même une forme de mystère, d'influence et éventuellement, non pas de comportement, mais de sensibilité. Ne serait-ce que de sensibilité au paysage. Enfin, c'est quelque chose que nous connaissons tous, ne serait-ce que par nos affinités. Voilà, c'est plus du ressort de l'affinité élective que de celui du déterminisme biologique, évidemment. Voilà, en cela, je me sens un être biologique et en cela, ma vision est évidemment déterminée par le pays où je me trouve. Mais mon écriture, non, je ne crois pas.
Une fois que vous avez donc déterminé votre sujet, votre lieu, votre mode de déplacement, éventuellement si c'est un récit, comment vous allez vous imprégner de tout ça avant de partir? Est-ce que vous allez vous documenter, lire certains auteurs spécifiquement?
Oui, j'absorbe tout ce que je peux. Je viens par exemple, je vous donne un exemple très concret, je suis en train de travailler sur l'Iliade et l'Odyssée, pour écrire pour un exercice radiophonique autour de Homère, enfin de l'œuvre d'Homère, qui se réduit d'ailleurs, enfin pardon de la réduction, mais à l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire à la totalité de ce qu'on a pu. On aurait dû mettre un point final à l'Iliade et l'Odyssée, le point final à toute création littéraire après cela, puisqu'on a fait finalement que répéter ce qui est déjà tout contenu dans ces deux poèmes. Et j'ai tout absorbé pour travailler à l'Iliade et l'Odyssée, tout ce que je pouvais. Tous les livres que je pouvais lire autour du commentaire, de l'analyse et de l'explication de ses œuvres. Et je suis parti vivre sur une île dans la mer Égée pendant quelques semaines pour écrire là-dessus. Et puis pour être tranquille surtout. Et c'est la même chose, je me suis beaucoup imprégné de toute cette géographie de la mer Égée, dont on n'est pas sûr d'ailleurs que ce soit celle exactement de l'Iliade et de l'Odyssée. Mais enfin, j'avais envie de connaître tout de cette lumière. Quand je vais quelque part, avant d'aller découvrir la chose, j'absorbe tout. Je sais très bien que souvent c'est un sujet de discorde avec un certain nombre de mes camarades qui prétendent qu'il faut être totalement vierge de toute chose pour laisser son propre regard féconder le paysage qu'il découvre. Mais moi, je suis incapable de penser à ça. Je préfère, au contraire, me bâtir d'abord une épaisseur de référence qui me permettront, au moment où je n'aurai plus rien à tirer de ce que je suis en train de découvrir et de voir, puiser dans ce catalogue de références. Donc oui, voilà, j'absorbe énormément.
Et est-ce que vous lisez des auteurs de fiction aussi, ou des auteurs qui n'ont rien à voir avec votre sujet, de la poésie, ou par exemple dans Sur les chemins noirs, c'est irrigué de Pessoa?
Oui, alors sur les auteurs de fiction par rapport aux auteurs plus documentaires, pourrait-on dire, oui, pour une raison très simple, c'est que finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'auteurs de fiction, en tout cas, quand on part voyager quelque part et qu'on a envie tout d'un coup de se constituer une sorte de matelas de référence, on s'aperçoit que les œuvres de fiction que l'on lit sont souvent finalement beaucoup plus instructives, en de purs termes techniques, géographiques, sur le pays que vous allez traverser, que les guides. C'est un exercice qui est très amusant à faire, c'est-à-dire de partir dans un pays lointain, très exotique, et duquel on n'est pas du tout familier, en emportant uniquement de la fiction et de la poésie, en décidant que, par exemple, on va aller visiter le Japon, non pas avec les guides attitrés, mais en emportant Soseki et un livre de haïku. Et on s'apercevra que finalement, grâce au miracle de la poésie, on en apprendra autant que dans un guide pratique. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs de fiction qui se sont servis de leurs matériaux. Le meilleur exemple de leurs matériaux vécus, je veux dire, le meilleur exemple, c'est Kessel. Quand Kessel partait en reportage, payé par un journal, par une rédaction, il en ramenait une série d'articles, lesquels articles en général était converti en nouvelles, lesquelles nouvelles lui servaient parfois à écrire un roman sur le sujet, roman à partir duquel il trouvait parfois un matériau qu'il réinjectait dans un autre roman. Quand il est parti, par exemple, après la guerre de 14-18, au terme d'un voyage épique à travers les États-Unis et le Pacifique, quand il est parti à Vladivostok pour aider la Légion tchèque par l'Est, qui fournissait les rangs de l'armée contre-révolutionnaire anticommuniste dans la région du Baïkal, Kessel a passé quelques semaines à Vladivostok avec les armées blanches. Il en a tiré des articles. Et puis il en a fait un livre très beau qui s'appelle « Les temps sauvages », où il parle de l'anarchie extrêmement violente qui régnait à ce moment-là à Vladivostok. Le pays n'était pas encore tombé aux mains des bolcheviks. Et puis plus tard, il en a fait un recueil de nouvelles qui s'appelle « La steppe rouge », mais qui venait de la même histoire, qu'il venait de raconter auparavant dans Les temps sauvages. Et puis ensuite, il a écrit une série de portraits, quelques décennies plus tard, qu'il a appelé « Tous n'étaient pas des anges ». Et c'était des portraits de gens qu'il avait rencontrés, et qui avaient un caractère très sombre. Et il s'est servi d'un certain nombre de Cosaques qu'il avait rencontrés dans les bas-fonds de Vladivostok. Donc voilà la preuve qu'il arrive souvent qu'un écrivain se serve de ce qui a été vécu pour donner une œuvre de fiction. Preuve, et j'en arrive à la conclusion de cette réponse laborieuse, preuve que souvent, quand on croit cheminer dans les parages purement imaginaires de la fiction, alors qu'en fait on ne fait que déblayer les ornements qui recouvrent une structure vécue parfaitement éprouvée.
Sylvain Tesson, est-ce que la lecture de certains auteurs peut être intimidante à certains moments? Par exemple, vous écrivez à propos de Sandrars, comment écrire une ligne après les tribulations de ce génie du mouvement? Est-ce qu'il y a comme ça une dimension d'inhibition de la lecture de certains auteurs ou de certaines œuvres?
Mais c'est au-delà de ça, c'est au-delà de l'inhibition, c'est que si on était véritablement logique avec nous-mêmes, honnête avec nous-mêmes, lucide sur nous-mêmes, nous n'écririons plus une ligne. Comment voulez-vous écrire sur la forêt après avoir lu le début du Songe d'une nuit d'été? Je viens de vous dire qu'on aurait dû mettre un point final après l'Iliade et l'Odyssée. Comment après la charge sur la plaine de Troie la charge d'Achille ou le duel d'Hector et d'Achille. Voulez-vous écrire la moindre ligne sur un petit combat avec des petits pistolets dans les poussières d'Afghanistan? Enfin, il y a quelque chose qui est évidemment une aberration. Mais cela dit, tout auteur est un mégalomane. Le fait d'écrire une ligne en pensant qu'un jour ce sera comme ça diffusé auprès d'un public avide dans des librairies qui seront obligées d'être barricadées à cause de la pression. Vous comprenez, c'est une sorte de mégalomanie mais qui ne fait de mal à personne, sinon à l'entourage proche qui est le seul à le subir. Mais vous avez raison, évidemment qu'on est complètement inhibé, et cette inhibition, enfin certains d'ailleurs, réussissent plus ou moins bien en vertu de leur expression de la mégalomanie. Il y en a chez qui ça s'appelle l'amour de soi-même, la considération qu'ils ont pour eux, la très haute opinion d'eux-mêmes, et il y en a qui réussissent très bien à corriger l'inhibition que peut procurer la lecture d'autres livres. Mais bien sûr, moi je la vis beaucoup, mais en même temps, il y a quelque chose qui, à mon avis, que tous les auteurs reconnaissent, c'est que on a toujours l'impression d'écrire uniquement pour soi, et on écrit des choses dont on est persuadé, et finalement, on ne pense pas au moment où elles seront lues. Là, je crois que c'est important dans l'écriture du journal, du roman, même de ce qui est destiné à être publié. On ne pense pas à l'œil qui lira, sinon on ne l'écrirait pas toujours. D'où d'ailleurs parfois la non-compréhension, le manque de compréhension, les malentendus profonds, les blessures que peuvent avoir certaines personnes qui lisent des choses que vous avez écrites. Et parfois, le lecteur ne se rend pas compte que l'auteur, c'est vraiment responsable, mais pas coupable. Je veux dire, quand les hommes politiques disent ça pour à peu près tout ce qu'ils font, eh bien, l'auteur pourrait se dire ça. Je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Certes, j'ai écrit cette ligne, mais je ne pensais pas que vous la liriez. Voilà ce que l'on pourrait répondre au tribunal de la Grande Inquisition qui vous reprocherait d'avoir écrit des choses. Ce serait un argument qui ne serait pas entendu, car juridiquement, évidemment, vous ne pouvez pas dire « Monsieur l'agent, je sais que je faisais cette infraction, mais je ne pensais pas que vous me verriez. » Et on a l'impression, évidemment, que c'est un argument, mais ça ne l'est pas, étrangement.
Justement, par rapport à celle, à la lecture de vos textes, est-ce que certaines lectures, la réception de certaines de vos œuvres, vous a étonné, choqué, d'ailleurs d'une manière positive ou négative?
Je n'ai jamais très bien compris pourquoi j'ai écrit, mais il y a un moment déjà, un livre sur un séjour que j'ai fait au bord d'un lac en Sibérie, où je me suis installé dans une cabane pendant quelques mois. Et alors, j'ai eu beaucoup de courriers. Et je n'ai jamais compris pourquoi cette expérience qui me semblait... Mais alors, j'aurais pu maintenant dire ces choses-là, parce qu'on a l'impression que je joue d'une fausse modestie. Mais j'avais véritablement l'impression que c'était très ordinaire d'avoir envie de vivre un truc... C'est Tom Sawyer, quoi, ou Huckleberry Finn. J'ai vraiment tellement l'impression que les enfants ne se trompent pas. Les enfants ne se trompent pas dans les héros qu'ils choisissent. Un enfant préfère le dernier des Mohicans, préfère Huckleberry Finn, préfère Ivanhoé aux anti-héros que leur propose aujourd'hui finalement le monde des adultes. Et moi, j'avais tellement l'impression que ce vieux rêve d'enfant qui consiste à vivre dans une cabane était un rêve banal, ordinaire, que tout le monde devait partager, que je n'ai pas compris l'intérêt que pouvait susciter ce livre. D'ailleurs, mon éditeur ne l'a pas compris non plus. Au tout début, ce livre avait été tiré de manière assez confidentielle. Et moi, cette idée, la société secrète des amateurs de cabanes au fond des bois, me suffisait très bien. Je savais que je rencontrerais comme ça quelques centaines, quelques milliers de lecteurs, mais pas beaucoup plus. Et j'ai fini par me dire au début qu'il y avait peut-être un désarroi. Et que si l'histoire d'un type qui va vaguement mélancolique et qui va vaguement s'alcooliser au fond d'une forêt vaguement sauvage intéressait autant, c'est qu'il y avait une forme de désarroi. C'est ce que j'ai pensé au début, et puis après j'ai eu des manifestations, puisque c'est votre question, qui était très sincère, très belle, avec la seule chose, non, qui m'a pas déplu, le mot est trop fort, mais la moins facile à recevoir, c'était de temps en temps l'incompréhension de certains lecteurs pour l'affection que je pouvais manifester pour un certain nombre de breuvages russes. Voilà. Alors il m'est arrivé d'avoir l'impression de recevoir non pas une lettre de lecteur, mais un avis des agents de la prohibition américaine des années 30. Mais ça m'a toujours beaucoup intéressé, ça. Et puis après, je me suis aperçu que ces lecteurs-là, j'ai reçu beaucoup de lettres comme ça, un courrier, non pas des alcooliques anonymes, mais des anti-alcooliques anonymes. Et je me suis aperçu qu'ils avaient finalement raison, puisque j'ai fini par connaître quelques problèmes à force de ne pas les avoir écoutés.
Si on revient, Sylvain Tesson, à l'écriture dans son aspect le plus concret, qu'est-ce qui vous est le plus difficile ?
Il y a une chose qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on va dire. C'est d'ailleurs, à mon avis, la vraie question de l'écriture. C'est quel est le propos ? Il est probable que si parfois tant de livres nous tombent des mains, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce que l'auteur veut dire. Le sait-il lui-même d'ailleurs avant d'écrire ? Souvenez-vous de la phrase merveilleuse de Pierre Louys, qui a écrit un journal de jeunesse. Il avait commencé son journal à 16 ans, avant de devenir morphinomane, et érotomane et opiomane, ce qui d'ailleurs ne sont pas forcément des vices. En tout cas pour la production de l'écriture, de la poésie. Mais il avait écrit un journal qui commençait par cette phrase merveilleuse « J'écris pour savoir ce que je pense ». C'est tout à fait beau, parce que dans les esprits légèrement confus, dans les esprits qui ne sont pas des esprits de système, dans les esprits qui n'ont pas une architecture leur permettant immédiatement de circuler dans la bizarrerie et la complexité du monde avec une ligne directrice intellectuelle, l'écriture est une forme de rassemblement de sa confusion. Encore faut-il qu'à un moment, ce mécanisme de l'éclaircissement de la pensée marche. Chez Pierre Louys, ça marchait. Il commençait à écrire pour savoir ce qu'il pensait, et puis tout à coup, on sentait qu'il pensait quelque chose. Je pense que c'est l'une des faiblesses de l'envie d'écrire, c'est d'écrire et que tout à coup, le miracle que désigne Pierre Louys ne s'accomplisse pas. Alors moi, je pense à ça. Je crois que le moteur qui tourne à vide, et là, je suis très menacé par cela. Je crois d'ailleurs que parfois, mon écriture tourne trop à vide. C'est la raison pour laquelle j'essaie de corriger ce mauvais penchant par la forme très courte. Parce qu'au moins, même quand un aphorisme ne veut rien dire, il corrige son inanité par la politesse d'être très court. Quoi, au moins, vous voyez ? Et pour finir avec cette question de la difficulté d'écrire, je crois qu'il y a dans l'exercice de la relecture, c'est-à-dire en fait du dégraissage, la relecture c'est le mot poli qu'on donne à l'entreprise de dégraissage, je crois qu'il y a là une vertu. On passe quelques semaines à écrire et après quelques années à couper. Et c'est peut-être parfois ce qu'on ne fait pas assez, ça s'appelle l'affûtage. Et c'est étonnant parce que nous sommes entourés de gens qui portent un grand soin à la conservation de leur ligne, de leur silhouette, et qui ne transposent pas les mêmes soins qu'ils portent à la conservation d'un corps parfaitement affûté à leur texte. Or, un texte, c'est un corps. On appelle ça le corps du texte, d'ailleurs. Et on devrait davantage consacrer du temps à affûter son texte, à le couper, à enlever toute scorie. Et moi, je rêverais, d'ailleurs, je considérais que j'ai fait un chef-d'œuvre lorsqu'il n'y aura plus rien qu'un point final et une quatrième de couverture toute blanche. Et là, oui, non, mais c'est vrai. Et là, à ce moment-là, j'aurai enfin quelque chose qui ressemblera à ce que je voudrais vraiment dire, c'est-à-dire rien, d'une certaine manière.
Est-ce que, Sylvain Tesson, vous avez un lecteur particulier, un lecteur de confiance à qui vous faites lire vos textes une fois que vous les considérez achevés ?
Oui, j'ai publié plusieurs livres chez un éditeur qui s'appelle Olivier Frébourg, les éditions des Équateurs. C'est un ami de Saint-Malo, d'ailleurs il est venu très souvent ici, c'est un marin, c'est un Normand, pas vraiment un Breton, mais c'est un Normand. Qui vit sur les falaises, au bord des falaises de craie, non pas les falaises de marbre, mais lui c'est les falaises de craie, de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Il a cette maison d'édition, on a publié plusieurs livres ensemble, et avec lui je pratique l'exercice qu'il m'a appris du gueuloir, parce que c'est un passionné de Flaubert, et il fait ce que Flaubert faisait... Enfin, il me permet de faire ce que c'est l'exercice, la technique que Flaubert réservait Rue de Rivoli à ses amis. Bon, alors il s'agissait toute proportion gardée, parce que Flaubert lisait ses textes à Zola et Tourguenieff et Alphonse Daudet. Alors il lisait les passages de Madame Bovary. Ils n'étaient pas tous convaincus, d'ailleurs, que ça passerait à la postérité. Tourguenieff était très méchant. Et ensuite, d'ailleurs, Flaubert racontait ses séances de gueuloir dans les lettres qu'il écrivait à sa nièce. On trouve des mentions de ce gueuloir dans la correspondance. Enfin, en tout cas, l'exercice est resté, l'exercice du gueuloir. Et c'est un exercice qui est très important parce que d'abord, vous avez un être que vous aimez, un ami, à qui c'est un exercice très agréable. On fume, on buvait, enfin lui encore, moi maintenant non, mais c'est un moment agréable et on s'aperçoit à haute voix qu'il faut tout couper. C'est un exercice c'est comme le jogging de l'écriture. C'est ce qui permet d'affûter le texte et de le dégraisser. Il ne ressort pratiquement plus qu'un os du gueuloir, là où il y avait un Jean Bonneau.
Sylvain Tesson, vous avez écrit que vous croyez à la mémoire des pierres. Est-ce que la question de la postérité se pose pour vous ?
De la postérité, non, non, ni de la mienne propre, qui serait une forme de propagation de moi-même, où je ne vois finalement je verrais dans l'idée. Vous parlez de la postérité de mes livres.
Oui.
Oui, de mes livres. Oui, parce qu'il faut pas confondre. Bien que beaucoup d'écrivains confondent. Enfin, vous connaissez l'histoire à haute librairie, à haute pourrie, et nos enfants sont nos livres sont nos enfants. C'est une espèce de vieille devise latine que certains écrivains solitaires ont souvent brandi, en laissant penser que toute leur descendance n'était finalement que le rayon de leur bibliothèque. Alors, il est vrai que finalement, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça vagit moins un livre. Ça nécessite moins de travail. Vous posez un livre sur une bibliothèque et puis il n'a pas les mêmes besoins qu'un nourrisson. Alors on comprend que beaucoup d'écrivains aient choisi finalement la postérité dans ces petits êtres qui ne réclament rien et qui sont les livres. Celui qui réclame, c'est l'auteur. Il réclame de l'attention, de la reconnaissance. Mais enfin, le livre lui-même, ce n'est qu'un objet inanimé qui parfois n'a pas d'âme d'ailleurs. Pour les enfants, non, moi je veux pas d'enfants parce que je trouve qu'il y a dans l'amour filial parfois une espèce d'amour de soi qui est un peu suspect. Ce qu'on aime chez l'enfant, c'est qu'il soit la propagation de vous-même, quoi. D'ailleurs, regardez, c'est le même mot qui concerne, le mot de reproduction est très étrange, la même chose qui concerne la propagation de l'espèce et le vocabulaire des photocopieuses, quoi. Enfin, donc, il est évident que c'est soi-même qu'on essaye de prolonger dans l'enfant. Mais là, on s'égare, c'est l'amour filial. Alors, l'amour, la volonté de... Ah oui, l'idée de la... Comment on appelle ça ? La postérité. J'allais dire la prospérité. Ce qui n'est pas faux, finalement, quand on est susceptible de passer à la postérité, c'est-à-dire ce pari sur l'avenir, s'accompagne en général d'un accroissement du confort du présent, donc de la prospérité. Mais non, ce n'est pas une préoccupation chez moi, et quand bien même en serait-ce une, que je ne vous le dirai pas, car avez-vous déjà rencontré un écrivain, même ici à Saint-Malo, où ils sont tous sincères, qui vous dirait « Oui, bien sûr, mon but est de passer à la postérité. » Non, je ne le crois pas. Tout le monde y croit probablement, mais personne ne le dit. Mais enfin, en tout cas, je n'ai jamais considéré que c'était une question qui m'intéressait. En revanche, je suis très heureux que mes livres rencontrent un écho. Oui, ça, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas la postérité, c'est l'immédiateté.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci à vous.
C'était la masterclass de Sylvain Tesson avec Delphine Chaume. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Vanessa Nadjar.